écoutez IDFM Radio, il est 16h sur le 98FM. Bienvenue si vous nous rejoignez, la radio des découvertes, quelles que soient les disciplines, quel que soit le talent. Ici à IDFM Radio, on ouvre l'antenne à ces talents d'Île-de-France. Avec moi, Axel. Salut Axel, toujours présent?
Oui, toujours. Bon retour à toi, parce que dernière émission qu'on a fait...
J'ai écouté.
Ton combat contre le champion de Muay Thai.
À Gare du Nord, ouais. Exactement. On ne vous dira pas qui a gagné, bien évidemment.
Il y en a une qui n'a pas fait une émission, donc...
Baf est avec nous aujourd'hui, salut Baf.
Salut Sabrina, salut à vous chers auditeurs, voilà, très content d'être là et en plus là, on n'est pas venu pour rien.
Tu t'es déplacé spécialement pour notre invité du jour qui est Ayodele Ikuesan, qui est une athlète.
On va
en parler, on va te consacrer une heure parce que voilà, nous on s'est rencontrés il y a pas très longtemps et j'ai été épatée par ton parcours, par ton récit du sprint plus
exactement,
précisément
du 100 mètres et du relais 4 fois 100 mètres.
Donc quelque chose de bien.
Alors athlète, c'est un peu diminuant parce que j'ai parlé un peu avec elle avant l'émission. C'est plus Wonder Woman avec tout ce qu'elle fait dans la vie, honnêtement.
C'est ça. Ouais. Comment il t'avait appelé Lucia Lello?
C'est pas Wonder Mama ou
voilà, c'est ça. Il y a Wonder dedans.
Voilà. Ça m'étonne pas de Lucia vraiment. Voilà. Ça m'étonne pas de lui.
Et on va comprendre pourquoi tout de suite. Donc je l'ai dit, tu es une athlète, une sprinteuse. On peut dire aussi que tu es élue à la mairie de Paris, de 18e arrondissement. Et tu es maman de deux enfants, maman césarisée. Alors je le précise et vous allez comprendre pourquoi. Tu as débuté en 2003, il me semble.
L'athlétisme?
Oui. Bien avant.
Commencé un tout petit peu avant. Non, mais en 2003.
En équipe de France, en tout cas.
En équipe de France, 2003. Oui.
C'est les bonnes infos. Et donc, est-ce que voilà, tu peux te présenter à nos auditeurs, passage obligé, nous dire qui tu es?
Bah avec plaisir et encore merci pour l'invitation. Donc Ayodele Ikuesan, moi je suis une spécialiste du 100 mètres et du relais 4 fois 100 mètres. J'ai fait deux fois les Jeux, donc Pékin en 2008 et puis Londres en 2012. Je suis vice-championne d'Europe du relais 4 fois 100 mètres, finaliste européenne sur 100 mètres. Et je suis aussi donc élue à la mairie du 18e. Je suis très engagée sur les droits des athlètes, notamment à la commission des athlètes du Comité Olympique. On se bat pour un certain nombre de choses et dont la création des commissions d'athlètes dans les fédérations délégataires. Et je suis aussi consultante parce que je travaille aussi à côté et surtout maman de deux enfants, donc césarisée. Je le précise aussi parce que il y a un peu cette image de la césarienne, ça veut dire aussi fin de carrière. Et donc il y a aussi tout un accompagnement aujourd'hui dont on parle peu et je pense que c'est important aussi d'en parler.
Oui, et donc pour rebondir, alors tu as énormément finalement de titres. Je sais pas si je vais pouvoir tout répéter à chaque fois, mais en tout cas c'est impressionnant.
Fais-le, ça fait un bon exercice de tout. Ouais, bah,
je pense que je serais pas capable, mais peut-être qu'Axel tu peux.
Non,
tu
moi pourras... on a dit que non.
Et donc est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé l'athlétisme?
Alors moi j'ai commencé l'athlétisme, c'était un peu j'aimais beaucoup courir en fait dans la cour de récréation, mais j'avais pas de stade à proximité. Et en fait j'ai commencé parce que le hasard a fait qu'on a déménagé et que le collège de coup de mon frère se trouvait en face du club Championnet Sport et que à Championnet on proposait de pouvoir s'inscrire à l'athlétisme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début j'ai touché un peu à tout, donc je touchais un peu ça fait rire un peu les gens, mais j'ai fait un peu de cross, j'ai fait un peu du fond, j'ai fait un peu de hauteur, un peu de lancer. Et j'aimais beaucoup le sprint et on avait à Paris une compétition qui s'appelle Paris-Bruxelles. Donc en fait, on allait faire des compétitions contre la ville de Bruxelles. Donc c'était assez chouette de partir entre copains et copines en compétition, en stage. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé l'athlétisme, que j'ai pris du plaisir à en faire. J'en ai pas fait au début en me disant que je voulais faire une carrière dans l'athlétisme, quoi, mais c'est vrai qu'après je faisais des performances et ça se passait bien. Et puis plus tu grandis, plus t'as des échéances aussi qui viennent. Et en fait, petit à petit, c'était j'étais championne de Paris, puis après on est championne d'Île-de-France, puis après on devient championne de France, puis après on se dit tiens, on va être en équipe de France. Donc en fait, au fur et à mesure, je suis arrivée comme ça dans du haut niveau.
Et donc dans ces compétitions, excuse-moi, après je te donne la parole, Baf. Et donc dans ces compétitions, qui est-ce qui te disait vas-y, là tu vas faire telle compétition et puis tu vas monter? Parce que je suppose que c'est pas toi qui t'es dit je vais me mettre là et puis on verra. Peut-être pas.
Ouais, bah en fait, au début, c'est l'entraîneur et le club qui te demandent si tu veux faire la compétition. Ouais. Et puis en fait, après, tu te qualifies pour la compétition d'après. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir des coachs, en tout cas, une école d'athlétisme qui était hyper sympa, hyper présent. J'ai eu un coach de sprint après qui m'encourageait dans tout ce que je faisais. Donc voilà, quand j'allais
en croyais en toi. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et qui était hyper enthousiaste, sur les compétitions. Et donc moi, ça m'encourageait. Et puis moi, j'aimais la compétition. Enfin, j'adore la compétition. Enfin, faut se le dire. Et donc, du coup, c'était facile aussi d'avoir envie de progresser et de se préparer pour d'autres compétitions un peu plus dures ou un peu plus importantes. Donc, c'est comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'après, on prend goût aussi à la compétition. Et tous les ans, en fait, on est un peu challengé à la fois par les adversaires, mais par le temps qu'on veut faire aussi. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que je suis arrivée dans du haut niveau.
Alors, je voulais te demander, donc je t'ai écouté parler là depuis tout à l'heure. Alors, si j'ai bien compris, donc l'athlétisme c'était pas forcément donc ta passion première, mais est-ce qu'il y avait un sport que t'aimais plus que l'athlétisme quand t'es plus jeune, quand t'as décidé de commencer?
Alors moi j'ai essayé, en fait c'est vrai que j'ai essayé d'autres sports. Mm-hmm. J'ai essayé le basket et je me foulais le doigt tout le temps. non mais faut dire la vérité. J'ai essayé le volley, mon service rentrait pas dans le terrain. Enfin bon bref, et je me suis dit au moins courir a priori c'est peut-être pas trop compliqué et j'aime bien ça. Donc c'est ce qui m'a amené à faire de l'athlétisme. J'avais essayé le tennis aussi mais c'était pas probant. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au départ j'aimais bien en fait, j'aimais bien un peu tous les sports, mais c'est vrai que en athlétisme quand j'ai commencé, je gagnais. Même au cross, je faisais des bons résultats, donc ça m'a aussi encouragé à poursuivre.
Et donc, comment tu as découvert l'athlétisme? Parce que c'est vrai, quand on est plus jeune, alors oui, à l'école, c'est vrai qu'on fait du cross, mais le sprint, les différentes disciplines, comment tu les as découvertes?
Je pense que pendant un temps je savais pas trop, et en fait en y réfléchissant je me suis rappelé que en gros dans ma cour dans la cour de mon école à chaque fois je sais pas si c'était chat perché ou en fait je m'amusais à prendre des virages et à ne jamais être rattrapée. Et d'ailleurs du coup maintenant dans mon école primaire ils ont mis des virages Du coup je trouve ça marrant et je pense que c'est vraiment à l'école d'athlétisme où j'ai découvert toutes les épreuves. Ce qui est bien, c'est que tu commences un peu par, tu touches à tout,
tu testes tout
et après tu peux te spécialiser un peu. Donc moi, j'avais une vraie préférence pour le sprint et c'est comme ça que j'ai découvert le sprint.
D'accord. Et donc, vu que tu nous as dit, t'as été maman et tout ça, comment tu prends la décision de te dire, il faut que j'y retourne? C'est-à-dire que c'est bête à dire, mais pour le coup, moi, dans mon club et tout ça, j'ai aussi des gens qui ont fait une grosse pause 10-15 ans et tout ça, et qui disent, allez, je reviens. Qu'est-ce qui te fait que là, ça te manquait trop, ou tu sens que... Enfin, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui te dit que boum?
Surtout qu'entre-temps, t'as eu t'as eu des succès dans tes différentes...
T'as ta vie d'adulte, en fait, entre-temps, qui te met une pause dans ton parcours sportif. Donc, qu'est-ce qui te fait retourner dedans?
Moi, il y avait... premier point, c'était de dire ma carrière, je veux pas l'arrêter parce que je suis maman. Donc ça a toujours été ça dans ma tête, c'était assez clair de me dire en fait je vais avoir un enfant, c'est plutôt bien, et la question c'est plutôt comment est-ce que je me remets un peu dans le bain, parce que c'est vrai que du coup quand on passe de, on a une vie un peu sportive de haut niveau, donc on a un peu une vie d'ermite, donc on mange pas ce qu'on veut, on sort pas quand on veut, on part pas en vacances quand on veut, et que c'est vrai que quand on commence à avoir une vie un peu plus tranquille, plus agréable, c'est plus dur de revenir à quelque chose où du coup faut faire attention à son poids et autres. Donc moi c'était déjà ça, de se dire que je voulais pas arrêter parce que j'étais maman. Et puis à un moment donné je pense que je me suis posé la question, j'ai réfléchi, je me suis dit en fait je voulais pas finir ma carrière sur des regrets. Je voulais pas me dire j'ai pas repris mais j'aurais dû reprendre, mais peut-être qu'est-ce que ça aurait pu donner. Et c'est vrai qu'après moi je suis suivie aussi par un psy, parce que je trouve que c'est bien de travailler sur soi, où on en a discuté, et je me suis dit là c'est le bon moment, c'est-à-dire que mes deux enfants, donc mon fils commence à vraiment dormir la nuit, parce qu'il y avait ça aussi, j'avais repris entre-temps et j'étais épuisée en fait, j'étais fatiguée parce que en fait il y avait les réveils la nuit, donc
l'allaitement
et en fait j'arrivais à l'entraînement. Enfin, je me souviens, je m'entraînais avec Créteil, j'arrivais au stade et en fait, mon jus était déjà parti dans les transports. Donc, donc j'arrivais à l'entraînement, c'était fini, j'avais plus d'énergie. Donc là, je se posais la question de bon bah en fait, je fais mon maximum, mais j'y arrive pas.
Puis t'as le risque aussi de te blesser.
Exactement. Et puis ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'en fait, il y a un des collègues d'entraînement qui a eu un enfant. Et en fait, j'ai vu qu'il était fatigué. Et je me suis dit, mais en fait,
c'est le cheminement, quoi.
C'est, ouais, c'est normal, c'est ça. Et je me suis dit, bah en fait, il est fatigué et en fait, c'est normal. Et toi, t'as le droit d'être fatigué, t'en as deux.
C'est le papa, visiblement.
Voilà,
c'est un papa.
Voilà, c'est le papa. C'est le papa et moi, il en a une et moi, j'en ai deux. Et du coup, ça m'a fait déjà psychologiquement du bien, ouais, de me dire, en fait, tu ne peux pas avoir autant d'attentes qu'avant. C'est-à-dire, il faut accepter la fatigue, il faut accepter que le rythme soit différent, il faut accepter que tu puisses revenir à ton rythme à toi. Et du coup, ça m'a fait vraiment du bien. Donc je pense qu'il y a aussi comment on se perçoit aussi, parce que c'est sûr que avant d'arrêter ma carrière, t'es dans les meilleures françaises et internationales, et du jour au lendemain tu repars presque de zéro, parce oui, que après la césarienne tu peux à peine faire un footing. Enfin, je me souviens, les premiers tours de terrain, c'était, moi j'étais à fond, hein, mais vraiment j'avançais pas du tout. Enfin, c'était,
mais franchement, même sans césarienne, hein, t'accouches, enfin vous les gars, vous pouvez pas savoir ce que c'est.
Ouais, mais on imagine.
Non, on n'imagine pas, on se met pas. Hey, soyons très honnêtes, c'est une galère qui vous arrive.
Chacun ses problèmes. Non, mais je veux dire, c'est vrai, là, on t'a ouvert le ventre, alors que quand on accouche, en réalité, on n'est pas comme avant. Hein.
Ouais, ouais, et puis.
Moi, déjà, j'arrive pas à faire un tour de stade sans m'épuiser, donc à un moment donné.
Je te rejoins.
Ouais, ouais, non, mais je pense que c'était vraiment accepter que ça allait se faire de manière progressive, accepter que, que j'allais prendre mon temps, et puis être alignée, moi, avec ce que je voulais faire. Et donc, déjà, ça m'a fait du bien, parce que psychologiquement, je me suis dit, ok, en fait, t'as le droit d'être fatiguée.
Et ça, c'était quand?
Ça c'était je dirais plutôt fin 2022, où je me dis
2022.
Ça.
Donc fin 2022, tu te remets
c'est ça,
la course, entre guillemets.
En fait, je me dis là c'est le moment. Okay. Faut que j'en parle avec un psy, avec quelqu'un qui m'accompagne,
toute seule, tu t'es dit, faut que j'en parle, ou quelqu'un t'a conseillé, parce que
son mari, il en pouvait plus. Sors.
c'est vrai, tu te dis pas tout de suite, je vais voir un psy.
En fait, nous maintenant dans le sport, c'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est-à-dire qu'on commence à arriver à des sujets où on se dit, on va quand même chercher de la haute performance. Donc on emmène nos corps dans des états où parfois ta tête est pas trop d'accord, parce que tu t'as mal tout le temps. Donc moi j'étais déjà suivie par un psy, mais c'est vrai que là je me suis dit j'ai envie de revenir. Faut que j'accepte que du coup ma vie elle a changé, que j'ai un rythme qui est différent, et en même temps je veux pas avoir de regrets. C'est-à-dire que je veux pas me dire j'aurais dû. Ouais. Je trouve que ça c'est encore plus épuisant que de faire.
Justement, moi ça me donne l'occasion de parler un peu de tout ce qui est mental, parce que je pense que c'est aussi l'autre caractéristique à prendre en compte, surtout pour un sportif de haut niveau. Alors visiblement, je sens que mentalement t'as l'air plutôt d'être plutôt forte. T'as eu justement des moments de doute, parce que ça, mentalement, je pense que outre le fait que tu aies des enfants, outre le fait de se remettre dedans, je pense que il y a un moment où il y a peut-être un petit moment de doute, une petite phase de doute. Est-ce que tu t'es dit tout simplement déjà?
Moi ça m'est déjà arrivé de me poser la question, hein, franchement. J'en discutais avec le psy, il se disait on a parfois des conversations un peu schizophrènes soi-même, ou des fois tu te dis quand j'ai repris la compétition, il y a un moment donné où je me suis dit en fait, si je veux m'échapper, c'est maintenant, parce que
en courant
parce que ça arrive. Après moi ce que je fais, c'est que j'essaye de me concentrer sur l'objectif. C'est vrai que il y a l'objectif de reprendre aussi, mais c'est de moi par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je me mets pas de pression. C'est-à-dire que oui, je vais aller au jeu, oui, je suis en train d'organiser, en tout cas j'ai organisé mon quotidien pour y arriver. Et en fait, moi, mon idée, ma manière de voir les choses, c'est de dire, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver, et je veux pas de regrets. Voilà, donc à partir de là, c'est vrai que j'aurais pu reprendre la compétition et y avoir un chrono pas terrible, et puis sur le coup j'aurais été hyper déçue, mais quelque part c'est vraiment ce chemin-là, en tout cas c'est le mien, et on verra ce qui adviendra, quoi. Mais je pense que il y a aussi cette pression qu'on se met aussi dans chacun des objectifs qu'on peut avoir, hein, haut niveau, pas haut niveau, du coup, ben voilà, moi je prends en compte, après bon, le challenge il est fort, enfin, hein, je veux dire, moi quand je l'ai annoncé, on m'a dit non mais t'es pas sérieuse, je dis bah si en fait, parce que j'ai essayé de reprendre à un moment donné aussi, justement, en me disant je reviens, j'ai pas d'objectif, et en fait moi je fonctionne aux objectifs,
c'est ton moteur là,
voilà, si j'ai pas d'objectif je peux pas y aller, enfin du coup
t'es un sportif, t'as pas d'objectif, c'est pas normal.
Non mais puis pour faire des séances dures faut que t'aies un objectif, faut que tu saches pourquoi est-ce que tu y vas, quoi. Et non, le plus dur là où j'aurais pu reculer, c'était l'été dernier quand je fais une compète, alors que en fait j'ai repris au mois d'avril sérieusement, que je suis pas prête, que je sais que j'y vais pour me prendre une claque. Parce qu'il y a la manière dont j'ai fini jusqu'à présent ma carrière et les compètes que j'ai faites, et là le fait de repartir sur du terrain, sur du concret, et en fait c'était mon moteur à moi de me dire en fait là j'y vais pour de vrai et je me donne à fond.
Et comment t'as accepté le fait que c'est un truc un peu, ça va sembler bête comme question, mais il y avait tes performances d'avant ta pause et tes performances actuelles, et c'est vrai que ça arrive à n'importe quel être humain, en fait, quand tu vieillis, tes performances diminuent, c'est le principe de vieillir, hein. Comment t'acceptes ça, le fait que tu sois plus au même niveau qu'avant? Parce que je sais, il y en a, ça les frustre, ça bloque. Ça fait un...
Là, moi, mon objectif, c'est d'être au même niveau, même plus rapide qu'avant. Je te rejoins, c'est que il y a eu une phase où, en fait, j'étais clairement pas du tout au même niveau. Mais genre pas du tout, enfin l'année dernière j'ai fait des chronos, j'ai fait peut-être 2 compétitions, j'étais pas du tout dedans, mais après je suis restée en gros l'idée de l'année dernière c'était de se dire je reprends contact avec la compétition, déjà j'y retourne, ensuite ça va être là maintenant c'est je m'entraîne sérieusement, et donc là je vais pour faire autre chose que de me faire plaisir en compétition, mais pour atteindre les objectifs que je me suis fixé.
Alors excuse-moi, je t'interromps vite fait, pendant cette période là où tu disais justement ça, est-ce que le fait de participer aux Jeux Olympiques c'était déjà dans l'esprit ou pas du tout?
C'était déjà dans l'esprit. D'accord. Mais par contre je savais que j'avais des étapes en fait. En fait, je pouvais pas passer de. Je me suis entraînée. Une à deux fois par semaine, de temps en temps, à tout d'un coup, je vais être compétitive. Donc ça, du coup, je l'ai travaillé aussi pour ne pas avoir trop d'attente aussi sur la reprise, et être aussi, même si c'est un mot à la mode, mais bienveillante avec moi, c'est-à-dire de me dire ok, là, c'est sur son chemin, il faut que tu acceptes ces différentes étapes. Et bon, moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement patient, donc.
Bienvenue au club.
On va en parler tout ça, de ta préparation, de ta routine aussi. Peut-être que t'as des routines. Ayodele Ikuessan est avec nous sur IDFM Radio, cette athlète française sprinteuse élue à la mairie du 18e arrondissement de Paris, maman de 2 enfants, objectif JO 2024. On va faire une petite pause. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Est-ce que t'écoutes de la musique quand tu t'entraînes?
Oui, j'écoute de la musique quand je m'échauffe.
Bibi, tout doucement.
Mais franchement, en compétition, j'écoute. Moi, je suis une fan des Boys to Men. Je vous interdis.
Oui,
personne ne va te juger.
Alors, on va écouter un petit Boys to Men. Est-ce qu'il y a un titre en particulier ou...
J'aime bien Never. Je sais pas si.
On va écouter Never. On se retrouve tout de suite après. Restez bien branchés sur IDFM Radio. Vous êtes de retour sur IDFM Radio 98FM, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui on est avec Ayodele Ikuessan, cette athlète française, sprinteuse, élue à la mairie. Je suis pas obligée de dire tout le temps élue à la mairie.
Non mais fais ton exercice de diction.
C'est bien.
Élue à la mairie du 18e arrondissement de Paris, maman. Alors elle a plein d'autres titres et plein d'autres casquettes, vous pouvez aller vous informer aussi. Il y a énormément d'informations sur les réseaux, sur Internet.
Reine des Amazones, membre de la Justice League, parce qu'en fait c'est Wonder Woman depuis le début.
C'est
hein,
ça. C'est ça, elle.
Wakanda, il manque.
Oui, parce qu'elle travaille aussi au Wakanda à temps partiel. Elle est chez les Avengers de temps en temps.
Et voilà, c'est ça, c'était une Avengers.
Oui, c'est ça, Avengers.
Ouais, sacré palmarès. Hein,
et vraiment. Avec nous, vous l'avez reconnu, Axel, toujours présent.
Toujours debout, toujours vivant. Toujours voilà, vivant. Parce qu'après les Boys Men, un peu de Renault pour recalmer tout le monde. Là.
Et je recadre. Baf Radio qui est avec nous,
Toujours là, toujours salut, présent.
Bonne petite journée. Tu as choisi le titre qui vient de passer, donc on me disait si Est-ce que tu t'entraînais en musique justement, on va parler de tes entraînements. Alors, je suppose que tu as un emploi du temps très chargé, tu l'as dit. Comment t'es organisée dans la semaine? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton quotidien?
Alors, donc moi,
par où commencer?
Je me lève, si je n'ai pas de réveil nocturne de mes enfants. Du coup, oui, ça commence par les emmener à l'école. Mais après, globalement, moi, je m'entraîne, enfin, je travaille à 4/5e. Donc, ça veut dire que je travaille 30 heures par semaine. Et à ça, j'ajoute, 6 à 7 entraînements par semaine. Donc, 3 entraînements minimum sur piste. Donc, d'entraînement au stade, plus 3 muscu.
Oui.
Donc, dans ces muscu-là, il y a une musculation, il y a 2 musculations des jambes, et en fait, 2 musculations du haut. Et après, j'ai aussi des soins kinés, j'ai des soins ostéo, je vous ai parlé du psy.
Oui.
Donc, en gros, moi, ma semaine, elle se termine le dimanche. J'ai des
À 3 heures du mat.
Des fois, je finis mes séances muscu parce que j'ai une salle à côté de chez moi et ça finit à 23 heures au moment où on nous chasse.
Tu fais la fermeture.
Faut partir,
avec
madame.
Voilà. Mais c'est exactement ça.
Lâchez cet alter.
Mais du coup, combien de temps dure une séance d'entraînement?
Alors, une séance de piste, c'est 2 heures et demie. Et une séance de muscu aussi. Donc quand j'ai une journée, par exemple, moi le mercredi après-midi, j'ai musculation plus piste. En gros, j'ai 5 heures d'entraînement.
5 heures dans les pattes, quoi.
5 heures d'entraînement à raison de 6 entraînements par jour, c'est ça?
Du coup, ça me fait 5 heures 3 fois par semaine. Plus 2 entraînements de 2 heures, donc du coup on est sur du 20 heures, quoi.
Mais t'as des vrais temps de repos ou pas? Parce que c'est un truc, ça a l'air bête dit comme ça, mais il faut éliminer les toxines, parce que faire autant de sport, ça fait énormément de toxines dans le corps. Mais si après derrière tu dois faire les activités de maman, ton activité professionnelle, tu prends les transports, tout ça, t'as pas de vrai temps de repos, donc t'as pas des moments où ton corps il...
C'est pour ça que j'ai lancé la cagnotte.
on va en parler de la cagnotte.
En termes de santé, ça peut être vraiment dangereux. C'est faire trop d'activités d'un coup. Le corps il a pas de vrai temps de repos, ni l'esprit.
C'est clairement ça. C'est pour ça que j'ai lancé la cagnotte, parce que moi j'hésitais à lancer la cagnotte. Parce que je suis pas forcément hyper à l'aise avec le concept, mais exactement c'est ça, c'est vraiment avoir un peu d'aide pour me dégager du temps, notamment sur la récupération, parce que c'est surtout ça qui joue, c'est que comme tu le dis, en fait, quand on est athlète et qu'on n'est pas parent, le soir on sait qu'on dort vraiment, qu'on peut se faire des grasses matinées pendant le week-end, et en fait quand on est parent, les grasses matinées ça n'existe plus.
Ouais. En fait, tu pars avec un handicap, clairement.
Il y a moins de sas de récupération. Après, moi, l'avantage, c'est que j'ai aussi mes parents à proximité, donc qui peuvent aussi nous permettre, si vraiment j'ai besoin de dormir un matin, de nous aider. Mais c'est vraiment ça aussi l'enjeu, quoi. C'est de me dégager du temps pour mieux récupérer.
D'accord, parce qu'il n'y a pas de vraie infrastructure pour pouvoir préparer correctement.
Moi aujourd'hui, c'est vraiment je me débrouille, je paye. Il y a un temps, j'aimais bien dire que j'étais sponsorisée par ma carte Visa, mais en fait, c'est pas vraiment du sponsor.
J'aimerais bien avoir ce sponsor.
Non, mais c'est surtout qu'à un moment donné, elle marche plus.
Il y a un plafond.
Les fonds ne sont pas illimités, malheureusement.
Mais c'est ça dommage. C'est ça qui est incroyable, et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Et nous, chaque semaine sur IDFM Radio, on reçoit des athlètes qui préparent les JO et qui font tous le même constat, en fait. Et à chaque fois, ils nous apprennent qu'ils font des cagnottes. Donc, il y a des centaines de cagnottes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, et on comprenait pas pourquoi un athlète avait besoin de fonds. Pour moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, que l'athlète n'était pas accompagné ni dans la structure, ni financièrement. Donc vous êtes un peu voué à vous-même, et on vous demande quand même, vous avez intérêt de ramener
débrouillez-vous,
des médailles,
mais ramenez-nous une médaille.
Ramenez la coupe à la maison.
C'est ça. Et en fait, préparer une saison, ça coûte de l'argent. parce que déjà ça veut dire que potentiellement on peut pas travailler à côté, ou on doit y a un manque à gagner en tout cas au niveau du salaire. Ça veut dire que tous les soins kinés, médicaux, etc., faut les financer. Les départs partir en stage pour avoir des conditions, on va dire optimales, c'est aussi des coûts. Voilà, il y a énormément de coûts cachés. Il y a aussi tout ce qui est le matériel, hein, parce que il y a aussi avoir les bonnes baskets, les tenues et autres.
Et dire donc, que ça coûte cher, les baskets.
C'est ça. Ça coûte super cher. Les pointes, ça coûte super cher. Les baskets, elles vont pas durer l'année. Donc, tous les 3-4 mois, il faut les changer. Donc, c'est plein de coûts comme ça qui nous coûtent de l'argent.
L'alimentation.
Et puis, surtout, je pense, la difficulté, c'est la visibilité. C'est-à-dire que quand on parle pas des athlètes, on le disait avant l'émission, mais en gros, nous, on s'entraîne un an. Et on va nous voir pendant 2 mois, mais du coup, le moment où on nous voit, en fait, il aura fallu quand même avancer tous les moyens nécessaires en amont pour se préparer, et c'est invisible en fait pour le public.
J'ai une question, mais pour un athlète, donc quels sont les moyens de vraiment gagner de l'argent en lien avec votre discipline? Donc il y a la cagnotte, on l'a dit, il y a le sponsoring aussi. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc le sponsoring, c'est quoi? C'est une marque qui qui croit en toi et qui te dit écoute, je te fournis les baskets
ou je t'aide aussi un peu financièrement pour payer ta saison. Ça peut être aussi des entreprises qui soutiennent à travers tout ce qui est autour de l'image et qui font intervenir les sportifs. Ça peut être aussi des partenariats avec des entreprises ou des boutiques ou des commerces à proximité en fait qui soutiennent. On parle d'alimentation, mais ça peut être aussi sur ça, hein, de pouvoir avoir des bons de réduction chez un commerçant. C'est toujours de l'argent en moins.
Il n'y a pas de petites économies.
Ah bah non.
Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà fait ce travail? Parce que je suppose, faut du temps pour chercher des sponsors.
En fait, c'est ça
par où commencer, quoi.
C'est ça qui est compliqué, c'est que. En fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cagnottes, c'est que du coup, on doit se concentrer sur le fait de s'entraîner pour faire des performances. En même temps, il faut essayer de travailler son image, il faut aller démarcher des gens, il faut aller discuter. Et donc, du coup, ça, en travaillant...
Faut faire sa promo à la radio.
Faut faire sa promo. Non, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Et normalement, c'est vrai que... je pense que c'est aussi un peu, aux fédérations, même aux institutions, de valoriser un peu les parcours des athlètes. Et je trouve, dans la presse, en tout cas, on a des médias qui racontent un peu les histoires, mais...
C'est les médias locaux surtout, hein. C'est pas les médias nationaux.
C'est ça, les médias locaux, et pas suffisamment. Après, moi, franchement, je suis parisienne, du 18e, je pense que je suis peut-être une des rares qui a fait 2 fois les Jeux. Je veux dire, les gens sont pas au courant, donc il y a quand même un petit sujet
de visibilité. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est tragique. C'est tragique.
C'est le problème français, hein, parce que vraiment le problème français, c'est que dans les disciplines qui sont aux Jeux Olympiques, la plupart du temps, tu as des entraînements de 2 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures grand max, 2 fois par semaine. Et on te demande un niveau d'exigence comparé à d'autres pays où les gars s'entraînent H24.
Moi, je sais que dans la manière professionnelle, tu veux dire?
Ah oui, mais moi, par exemple, taekwondo, l'équipe coréenne, c'est une équipe nationale, elle est sponsorisée. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye. Vraiment, c'est l'État coréen qui paye, et les gars, ils arrivent, ils s'entraînent toute la semaine. Ils ont pas de temps mort.
Bah justement, en fait, IODL, ça me permet justement de revenir là-dessus, parce que la fédération savent justement tout ce que vous mettez en avant pour que vous puissiez ramener des médailles. Quelle est un peu leur contribution justement, que ce soit dans ta discipline ou que ce soit dans les autres disciplines olympiques, parce que là, à t'écouter, on a l'impression que la fédération, que même la comité d'organisation, ils font rien. C'est l'avis que j'ai, en tout cas.
Ouais, on balance.
Non, mais je te jure, en l'écoutant, je me dis, mais la fédération, elle fait quoi, l'histoire?
C'est super compliqué, hein.
Non, mais je pense que la fédération, on va dire, en tout cas, nous, à l'athlé, qui finance des stages nationaux, qu'ils ont mis des choses en place. La fédération de kayak, il y a eu un reportage il y a pas très longtemps, sur Stade 2, si je me trompe pas, sur les kayakistes qui, pareil, essayent de trouver de l'argent pour partir en stage. La réalité, c'est que, moi, je pense pas que l'État puisse tout financer, mais par contre, je pense que chacun peut jouer dans la visibilité qu'on donne aux athlètes. Moi, je le disais, là, quand on parle des aides aux sportifs, moi, j'ai toujours travaillé et j'ai jamais eu d'aménagement, en tout cas de CIP, ce qu'on appelle un contrat d'insertion professionnelle, où, en gros, t'es détaché une partie de ton temps et il y a une compensation ou une aide de l'État. Mmh. Moi, je l'ai jamais eu, ça. D'accord. Et pourtant, j'étais en équipe de France.
Et pourquoi faire la demande?
Bah, j'ai fait la demande, mais à cette époque-là, ils ont pas jugé utile que je puisse avoir cette aide-là.
Et puis, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'athlètes qui doivent justement la demander.
Bah, des athlètes qui travaillent vraiment et qui sont pas détachés, il y en avait pas non plus 150. Mmh. Donc après, il y a aussi des choix de fédération. Moi aujourd'hui, je suis assez libre pour dire que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de loupés et que il faut que ces choses-là ne se reproduisent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut pas juste. Moi, je peux comprendre et j'ai fait des tweets dans ce sens. Je peux comprendre qu'il y ait des athlètes qui se disent, bah en fait, entre faire du haut niveau et remplir mon frigo, bah très sincèrement, je vais aller remplir mon frigo. Parce qu'en fait, ce que je raconte là, moi, dans mon parcours, c'est que je cumule, c'est-à-dire que je travaille comme n'importe qui, et que derrière, j'ai une deuxième vie où je vais travailler, et après, je vais encore travailler. Enfin, et ça, en fait, en vrai, personne ne rêve de ça. Mmh. C'est hyper fatigant, et en plus, c'est même pas valorisé. Donc, c'est ce qui explique que t'es très peu d'athlètes qui continuent, parce que c'est trop dur. La question, c'est effectivement comment est-ce qu'on raconte les parcours pour que, en fait, on soit pas obligé de faire des cagnottes. C'est grave de faire des cagnottes. Ouais. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien se dire, c'est quoi tes chances? Mais en fait, avant de parler même des chances de médaille, comment on t'accompagne, tu vois? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Est-ce que tu peux raconter ton histoire à des jeunes, à des moins jeunes? Est-ce que ça peut être inspirant aussi pour d'autres? Moi, je trouve que voilà, c'est le vrai sujet du sport en France. C'est qu'on valorise pas les sportifs. Ouais. On regarde le nombre de médailles. Et en fait, les JO, ça va être ça. On va regarder si c'est une réussite que si on a des médailles. Non, mais on regardera pas.
Oui, mais si
pas.
On vous donne pas les conditions pour que vous puissiez ramener des médailles.
Ne serait-ce que les infrastructures.
Voilà, c'est ça. C'est paradoxal un peu.
Mais justement, alors, pour les athlètes étrangers, comment ça se passe pour eux? Parce que moi, je me suis renseignée un petit peu. Dans d'autres pays, c'est pas du tout comme en France. Il y a certains pays, je veux pas dire de bêtises, je sais plus lequel, mais le sportif de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques, il est payé, il est chouchouté, il est
pas on chouchouté, dire... hein, faut qu'il bouge ses fesses pour amener un truc parce que
oui,
c'est
le... mais il lui donne les moyens de le faire parce que il représente le pays. Est-ce que vous partez là encore avec un handicap en fait? Vous partez pas des mêmes bases?
Ah bah clairement non en fait. Souvent on se dit en fait vous êtes en France, on a de la chance. Moi je pense qu'il déjà il y a pas mal de pays qui sont pas très loin, hein, que ce soit la Belgique ou l'Allemagne ou autre. Ça veut pas dire qu'ils font 50 fois plus de médailles que nous, mais déjà rien que la place du sport, on n'est pas sur un débat interminable comme on l'a encore aujourd'hui sur est-ce que les JO ça a un intérêt quelconque pour la population. Donc du coup c'est plus facile de les accompagner. C'est plus facile d'avoir une politique sportive. On est sur un accompagnement où les sportifs sont soit dans une entreprise, soit dans l'armée, dans la police, dans des institutions de l'État. Et puis du coup derrière, ils ont moins ce sujet de l'après carrière. Nous, du coup, le sujet c'est que il faut des moyens pendant la carrière, il faut s'accrocher. On n'est pas visible. Tant que vous passez pas à la télé tous les matins, les gens ne vous connaissent pas. Et donc, si déjà pendant votre carrière on vous connaît pas, probablement après carrière on vous connaîtra pas plus. Et sachant que pour beaucoup d'athlètes, la difficulté c'est que, pour ceux qui ont arrêté les études très tôt, ceux qui n'ont pas travaillé, se pose la question de ce qu'ils font après. Oui. Et la fin est très brutale et c'est pas forcément très facile à vivre pour beaucoup d'athlètes. Mmh. Et ça, on en parle peu. Et donc, c'est aussi pour ça que, moi sur l'objectif, quand tu disais est-ce que c'est dur de reprendre ou pas reprendre, moi je me suis dit en fait j'ai fait pendant longtemps du haut niveau en travaillant en même temps, les gens le savent pas et donc les gens ils regardent les chronos, ils se disent ah ouais bon t'as fait ça c'est bien mais t'aurais peut-être pu faire mieux. Moi je sais que quand je fais finaliste européenne je suis à temps plein, donc faut se dire que je suis dans les meilleures européennes, mais je travaille plus de 35 heures semaine
déjà, alors que celle d'à côté peut-être ne travaille pas, tu vois.
Mais la première réponse c'est t'as fait ce temps-là, t'aurais pu faire mieux, fais-le toi déjà. Ouais. Non mais c'est vrai.
Je voulais le dire mais je me suis dit.
Non mais moi je le dis, moi j'ai pas de problème. Ça fait des années que je pratique les arts martiaux pour ce genre de cas, pour pouvoir parler comme ça. Non mais y a un vrai problème aussi en France qui est maintenant, va trouver un endroit pour t'entraîner. Ce qu'on en parlait tout à l'heure, les pistes, elles sont quasiment toutes en extérieur. Vous savez qu'on est en vigilance orange dans le département. Va courir, va faire un sprint sous de la pluie, de la neige et du verglas. Moi je dis juste voilà, tu peux pas y aller au JO, hein. Si tu te pètes la jambe avant,
ouais,
parce que c'est
ouais,
super dur dans peu importe les sports, trouver un endroit pour pouvoir pratiquer correctement ton sport, t'entraîner correctement, c'est extrêmement compliqué.
Et pourtant, on voit des infrastructures pousser comme des champignons un peu partout, mais alors, ouais, mais qui a accès à ce type de d'équipement en fait,
c'est simplement sur des sports qui rapportent.
C'est ça, c'est ça. Et puis là, il y a aussi des voilà, des infrastructures qui sont en train de pousser, mais ça va pousser pour avant les JO.
Pas pour toi quoi.
Non, pas pour pas moi pour... Et puis voilà, nous on le disait, la salle d'Aubonne, c'était aussi un rendez-vous pour l'athlétisme l'hiver. Là, il y a des travaux, il y a plus de compétitions. Il y a eu des compétitions où on a dû les faire à Reims. On est quand même en région parisienne. Enfin voilà, faut quand même se dire que c'est quand même pas du tout l'idéal pour se préparer. Et effectivement, bah nous l'athlétisme, on est l'hiver, on est dehors quoi. Donc voilà, faut rajouter ça en plus.
Puis les coûts de transport, parce que bah genre je sais pas comment ça marche sur l'athlétisme, mais les compétitions, c'est tu fais départemental, régional et après national, il faut te déplacer. Et ça, ces coûts de transport là, ils sont pas déductibles, hein. C'est
t'es
pas
non, tu t'avances les frais.
Tu saurais nous dire, avant qu'on refasse une deuxième pause, combien à peu près coûte votre entraînement, vos préparations à tout ça? T'as calculé un petit peu où
t'en étais? Moi j'ai calculé, en fait t'es entre 10 000 et 20 000 euros sur une préparation. Donc du coup
le prix d'une voiture quoi.
Voilà, c'est ça. Non mais voilà, t'es vraiment entre 10 000 et 20 000 euros si tu comptes les stages, si tu comptes vraiment tout le matériel, tout ce qu'il te faut vraiment pour optimiser, et puis aussi le temps de travail que tu ne vas pas faire parce que tu dois récupérer. Et t'es vraiment dans des sommes comme ça, donc c'est assez conséquent. Et en plus dans ça, je compte même pas le fait que dans certains pays il faudrait payer aussi l'entraîneur, faut enfin voilà, il y a aussi le préparateur physique qu'il faut payer, les infrastructures dans lesquelles on va. Bah moi je vais dans une salle de muscu privée, donc ça aussi il faut le rajouter dans cette somme. Donc voilà, ça coûte quand même beaucoup d'argent
pour tout ce qui est médecin et tout ça aussi.
Ouais, c'est ça, médecin, avancer les frais de déplacement, parce que quand on va faire des meetings, faut avancer. Bah donc pendant 6 mois de l'année, si je vais à Reims, si je vais je sais pas où, si j'y vais en voiture, c'est avec mon essence, et si je prends le train, il faut que j'avance, si je veux faire tout sort de notre poche. Et du coup, c'est aussi c'est aussi pour ça qu'il y a autant de cagnottes, parce que en fait, les athlètes ont envie d'atteindre, en tout cas, de se donner un maximum de chance. Et en même temps, il y a la réalité économique qui fait que faut payer, et que s'il n'y a pas les fonds, il n'y a pas les fonds.
Alors, j'ai une petite question avant qu'on fasse la petite pause. Alors, je t'écoute depuis tout à l'heure, et en fait, j'ai l'impression que, en t'écoutant, que ce sport n'est pas considéré. Alors, j'ai l'impression qu'historiquement, l'athlétisme a toujours été considéré
en France.
Ça a toujours été considéré. Alors toi, par rapport à toutes les disciplines qu'il y aura aux Jeux Olympiques, où est-ce que tu situes en tout cas la popularité de l'athlétisme?
Moi, je pense que l'athlétisme, c'est un sport qui est assez populaire,
hein,
qui est aussi apprécié en tant que tel. Mais par contre, les athlètes français. C'est ça la question. Est-ce que les athlètes français sont suffisamment connus? Ça, pour moi, non. Je me souviens par exemple au championnat du monde, c'était en 2017 à Londres, on avait, les Anglais avaient fait des reportages sur chacun des athlètes présents pour raconter où ils s'entraînent, ce qu'ils font dans la vie, leur progression, leur parcours. Et en fait, ça humanise en fait. Moi, je fais du 100 mètres. C'est simple, si tu rates mon départ. Non mais voilà,
si tu tournes la tête ou si t'as un voilà, dans l'œil,
ça dure 10 secondes.
Parce que du coup aujourd'hui, c'est pour ça que les télés, tout ça, on n'est plus sur de la course sur route, sur du marathon, parce que ça dure longtemps. Donc en fait, les gens, ils peuvent faire une pause, on peut papoter, on revient, la course n'est pas finie. 100 mètres, on a raté le départ, c'est terminé. On arrive tout de suite, c'est la présentation, les présentations vont encore plus vite, on n'a même plus le temps de raconter l'histoire à la personne.
Michel qui hurle comme un ouf.
Et c'est déjà fini. Et donc en fait, c'est tellement rapide. Qu'en fait, on n'imprime pas qui fait quoi. Moi, je fais du relais 4x100. Mon poste jusqu'à présent, c'était en ligne droite opposée. Bah, c'est dommage, la ligne droite opposée, c'est celle qu'on voit absolument pas sur un relais.
C'est
de l'autre côté. Et ben, c'est celle qu'on voit pas. Parce que ça va tellement vite. Et en fait, on va voir celle du départ.
Et celle de la fin.
Et celle de la clôture, fin. Ouais. Donc du coup, pas de chance. On va pas devoir encore. Et donc pour des épreuves où c'est hyper rapide, où en fait les gens ont pas le temps d'imprimer,
tout simplement, ben il faut
raconter un peu plus. Voilà qui est cette personne. Enfin voilà, donc aussi moi les amis parisiens de dire bah ouais, il y a pas 50 000 athlètes à Paris, ça serait cool de parler un peu plus aussi de nous.
Tu sais un peu combien d'athlètes vont être retenus? Sur les JO
au total pour la délégation française.
Pour la délégation française et après c'est... peut-être dans ton...
Bah c'est environ 500 à peu près globalement de Français. Après combien il y aura d'athlètes précisément, ça va dépendre de ceux qui font les minima, de voilà, donc ça je pourrais pas dire. Je sais qu'aujourd'hui en tout cas sur le sprint les places sont ouvertes parce que personne n'a fait les minima. Et donc, il pourrait y avoir aucune fille comme il peut en avoir 3 maximum par épreuve avec le relais en plus.
Et vous êtes un peu en connexion, les athlètes entre vous, vous parlez, vous
rencontrez. Ouais, on se parle un peu. On se parle un peu. Oui, moi je pense que après il y a la team des mamans, donc je pense à une sprinteuse en particulier qui a eu un enfant, du coup il y a un peu plus d'un an. Voilà, on se parle un peu plus. Je pense que c'était aussi un des défauts qu'on avait jusqu'à présent, c'est que tout le monde est dans ses problèmes. Et du coup, on est absorbé par nos problèmes. En fait, on vient faire la compétition, mais en même temps, tu portes un peu ton sac de soucis. C'est
ça. Et du coup, pour vous faire sponsoriser, pourquoi vous tentez pas d'inventer une épreuve, le sprint poussette, comme ça, pour vous faire sponsoriser par des marques de poussettes?
Bah franchement, bon moi j'en ai plus besoin, mais pourquoi pas quoi.
Moi j'essaie de trouver des solutions.
Bon Axel, quand on aura besoin de conseils.
J'ai imaginé le truc 2 secondes.
Mais attends, on n'aide pas les athlètes français et françaises. Donc moi je trouve des solutions. J'essaie de faire rentrer de l'argent. Vous voulez qu'on prépare les JO correctement, oui ou merde?
Ayodele IQS100 avec nous. Elle prépare les JO 2024. On la découvre. On se rencontre, on te découvre, on découvre ton parcours et tous ces sacrifices, tant de sacrifices et au final pour peu de reconnaissance, j'ai envie de dire, peu de lumière sur vous.
Il n'y a aucune, hein, faut être honnête.
Moi je la suis un peu sur les réseaux, je vois quand même elle est active dans certains médias. Alors effectivement pas des médias traditionnels.
En fait, si tu vas pas sur France 3 Région, tu ne sais pas qui te représente au JO. Faut être très honnête. Oui. C'est-à-dire que si les médias locaux te parlent des JO des athlètes, mais les médias nationaux te disent on a eu telle médaille, qui?
Je trouve que c'est dommage parce qu'en plus cette année les JO c'est ici, c'est chez nous. Donc s'il y a vraiment une occasion de mettre en avant nos artistes, nos athlètes,
vous êtes des artistes, mais c'est vrai que c'est beaucoup des médias locaux. Après moi je fais un petit coucou à M6, j'avais vu un reportage où justement c'était bien parce qu'ils sont venus me voir en pleine reprise et je trouve que c'est aussi ça, soutenir les athlètes dans leur parcours.
T'en avais fait la demande? T'avais fait
non, c'était eux qui c'est eux et en fait c'est parti du Parisien, donc un petit coucou aussi à Marion Canu du Parisien et André Daxel de M6 qui en fait avait vu mes prises de position notamment sur l'aide aux athlètes ukrainiens.
On va en parler.
Et qui en fait se sont dit en fait elle fait encore de l'athlétisme, mais
on savait pas.
Voilà.
On va en parler. Alors un autre titre, Ayodele, c'est ton émission. Qu'est-ce que t'aimerais écouter? Même si c'est un truc vraiment un délire totalement perso.
Non, mais peut-être un petit son de Burna Boy ou.
Alors on écoute Burna Boy. Sitting top of the world. No.
Très bien.
Bon, on se retrouve tout de suite après. Restez bien branchés. On est toujours avec Ayodele sur IDFM Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez sur IDFM Radio 98 FM. On est toujours dans le carré des artistes avec Ayodele IQS100, une Wonder Woman, une artiste, on peut le dire, qui se donne corps et âme, on l'a dit, qui sacrifie son temps avec ses enfants, sa famille pour un objectif, les JO 2024. Et c'est pour ça que moi, Ayodele, je suis ravie de te recevoir. Tu es vraiment un exemple. Parfois, moi, je me dis, c'est dur et tout, et je tombe sur tes vidéos et je dis, ça m'en a tête tais-toi, avance, va chauffer ta voiture et va parler dans ton micro. Avec moi, Axel,
oui,
toujours présent.
Toujours présent. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais, parce qu'en tant que sprinteuse, tu pourrais juger le sprint que Baf vient de faire pour aller aux toilettes?
Ah oui, tu peux juger. Vas-y.
Lui donner des conseils pour pouvoir, parce que là, il a fait un départ porte.
Il a fait un faux départ, ouais. On peut le dire.
Voilà. Bah, j'attendais d'être sûr que le son passe et pour faire mes affaires, quoi.
Alors, il faudra travailler un tout petit peu la technique, mais c'est encourageant.
Voilà. Toi, tu
donc,
veux.
C'est le conseil d'une pro. On prend.
Baf Radio nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous aussi pour cette émission. Baf, quand je t'ai dit que je recevais une athlète, tu m'as dit je viens, je veux participer. Donc, voilà. Pour nous, c'est un peu le laboratoire des curiosités, tu vois. On veut comprendre, on veut savoir pourquoi.
Bah merci, c'est bien.
Et encore, j'ai pas fini de poser des questions encore. J'ai pas fini encore. J'ai encore d'autres questions.
Pourquoi et comment? Donc les dépôts pour participer au JO, ça sera le 30 juin prochain, on va dire la deadline.
Oui, c'est ça, la deadline, c'est le 30 juin. En gros, c'est les championnats de France. Donc on a un temps à faire et on a jusqu'au championnat de France, donc le 30 juin.
Ça se passe comment? C'est sur dossier?
En fait, du coup, on fait des compétitions et on se qualifie au championnat de France et après les prioritaires, ça sera donc le podium des championnats de France lorsqu'on a plein de personnes qui ont fait les minima, ce qu'on appelle du coup les temps de référence à faire. Et voilà, les championnats de France, c'est vraiment la dernière compétition où on peut faire le temps demandé.
Alors le temps demandé, c'est quoi dans ta discipline?
Donc moi c'est 11.08 ou 11.07. Enfin moi dans ma tête, je me suis dit il faut que je fasse 0.07 sûr.
OK.
Donc c'est peut-être 0.08 mais 0.07 c'est
tu passes. Et alors dans tes entraînements, tu y arrives ou tu y arrives pas encore, ou c'est quoi ton temps là? Est-ce qu'on peut spoiler?
Bah là pour l'instant je fais pas de 100 mètres à l'entraînement, donc là du coup je fais des 80, soit je fais des 120. On fait pas la distance précise, mais par contre je fais la saison hivernale et donc l'idée c'est de me rapprocher aussi petit à petit de mon record personnel. Ça me donnera des indicateurs sur mon temps de passage sur le 100 mètres.
Et donc t'as une petite tu surveilles un petit peu ce que font
les
adversaires potentiels,
les concurrents?
Eh ben non, je regarde pas. J'ai assez à faire avec moi.
Parce que là c'est un peu différent de d'autres disciplines, parce que en fait t'es seul. Enfin c'est.
Ouais, je suis seul dans ma ligne
toi
en fait.
Et toi, ouais.
Ouais. La seule personne que t'affrontes c'est toi.
Ouais, c'est
d'autres disciplines où ouais t'as quelqu'un en face. Oui, effectivement, tu te renseignes, mais là, non, tu dois.
Non, mais après, tu peux rentrer quand t'es vraiment sur la phase finale de, voilà, parce que t'as forcément, t'as des habitudes de personnes, donc tu peux avoir des stratégies sur ta course. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment plus focus sur moi, ce que j'ai à faire, de toute façon, parce que c'est comme tu dis, hein, mon adversaire, ça va être moi, donc moi, il faut que je fasse ma course et c'est ma course qui fera que je ferai mon temps. Et après, bah, s'il y a des filles qui courent vite, bah très bien, à la bagarre, on sera peut-être ensemble, mais il faut vraiment que moi, je respecte mon schéma de course. Donc, du coup, là, je suis plutôt sur retrouver mes repères techniques, retrouver aussi mes sensations à moi et puis faire des séances qui font mal pour l'instant, donc
ouais. Est-ce que t'as encore des courbatures?
Ouais, j'ai mal.
C'est pour ça que tu marches comme ça.
Tu veux un entraînement, tu te lâches un Rottweiler derrière toi, tu vas aller faire les 11 secondes.
Voilà, c'est ça.
Ça peut être une technique, mais ça.
D'ailleurs, c'est pas autorisé en compétition.
Oui, mais c'est dommage. On vous met un bout de viande et un rot derrière. Si tu te fais attraper, t'as perdu.
Ouais, tu pars beaucoup, ouais.
Non, mais par contre, vraie question, parce que tu dis que la date butoir, c'est le 30 juin. Les JO commencent en juillet. Un mois de préparation, c'est pas assez, en fait. Parce que,
fait un an qu'elle se prépare.
Oui, mais en gros, quand t'arrives. Tu rentres dans l'équipe, tu vois, dans l'équipe de France. Donc tu vois avec qui t'es, c'est ce que tu fais aussi du relais. Le relais, c'est en équipe. Faut que tu t'apprennes à connaître les personnes avec qui tu cours et tout. Et un mois, ça fait un peu short, quoi.
En gros, la saison. Nous, c'est la saison estivale, donc en gros, ça laisse peu de temps. Mais pour nous, c'est parfait en fait pour l'athlétisme, parce qu'en fait, c'est dans le prolongement de ta saison. Donc t'as pas besoin de repartir sur une préparation. T'es vraiment sur le prolongement. Après, sur le relais, là aujourd'hui, il y a des filles identifiées pour le relais qui travaillent ensemble. Mais après la saison hivernale, ils incluront aussi des filles en fonction des résultats de la saison hivernale, donc moi j'ai été dans le relais titulaire très longtemps, donc c'est quand même des habitudes qui disparaissent pas, mais c'est sûr qu'il y aura un stage de préparation, qui vont regarder qui est là, qui est pas là. Moi, c'est pour ça que je me focalise beaucoup plus sur l'indiv aussi, parce que c'est, en gros, le relais, c'est constitué un peu différemment. C'est-à-dire que, autant le 100 mètres ou toutes les épreuves individuelles, tu dois faire un temps et tu t'es qualifié. Le relais, t'as toujours un peu comme une équipe de foot ou de hand, etc. Tu vas toujours avoir un peu l'avis du sélectionneur qui va dire, je préférais prendre un tel. Bon, moi, c'est sûr qu'il pourrait dire, mais elle est trop vieille, elle est trop ci, elle est trop ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être performante sur le 100, et après, on parlera de ce qu'ils veulent faire, mais je me parasite pas encore la tête avec ces sujets-là.
Du coup, tu te retrouves avec des filles beaucoup plus jeunes que toi.
Ouais, c'est ça.
T'as l'impression de revenir un peu à zéro, est-ce qu'elles te, non, mais ça peut être frustrant aussi de se dire, voilà, t'as quand même un parcours où tu as gagné énormément de compétitions, donc c'est vrai que pour
moi, je trouve ça marrant. Moi je trouve ça marrant parce que du coup c'est il y a des gros écarts, donc en fait on n'est plus dans les mêmes générations.
Mais t'es un peu obligé de montrer l'exemple. T'es un peu obligé.
Non, je ne montre pas l'exemple. Alors Mento l'a fait. Vous avez vu, j'ai 15 ans de plus et je vous fume. Allez les nazes.
Du coup elle écoute du Boys to Men et les autres du Joule.
Elle, l'esprit Coubertin, il a pris une claque.
Non mais ouais, je pense en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, les jeunes générations connaissent pas les plus anciennes, et pourtant, j'ai pas raté 10 ans, donc ça pose quand même la question de pourquoi est-ce que les jeunes connaissent pas ceux qui étaient juste avant.
Elles révisent pas,
ou sinon parce qu'en fait, on leur en parle pas non plus. Enfin moi,
mais tu fais un sport, tu te renseignes quand même un minimum.
Bah franchement, honnêtement, tu vois, Alice Mia par exemple dont on parle aujourd'hui, moi je l'ai découverte parce que on m'a proposé d'être sur un projet où du coup on a inauguré une œuvre d'art pour elle au Comité Olympique. Mais moi en tant qu'athlète, je la connaissais pas en fait.
Vous faites pas des recherches
Bah en fait même pas quoi. On fait pas des recherches, on sait pas où chercher. Les gens, tu sais pas. En fait si tu les as pas vu à la télé, bah tu les connais pas, et donc en fait t'as vraiment tout un truc qui est perdu, enfin voilà. Et en gros, bah moi quand j'arrive en compétition, je sais qu'elles savent pas qui je suis, moi ça me dérange pas plus que ça. Et effectivement après ils se disent, bah la tontine elle m'a battue. Mais
alors avant qu'on se quitte, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, Ayodele, est-ce que tu peux nous dire un dernier mot? J'aimerais qu'on clôture sur l'effet d'annonce ou pas d'ailleurs de ce budget qui va être alloué aux sportifs ukrainiens. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé ça à limite un peu, j'avais pas envie de dire insultant, mais
non, mais c'est limite, parce que quand tu vois que
c'est limite, après tout ce que tu nous as expliqué, après tout ce que tu nous racontes, et bien évidemment que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, puisque comme je le disais, nous une fois par semaine on reçoit des athlètes qui préparent les JO et qui sont un peu dans le même, totalement dans la même situation que toi, beaucoup plus jeunes. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui sont étudiants.
Moi j'irais même avant les athlètes qui préparent les JO. Cet argent-là, il est pris aussi. Il y a une allocation qui a commencé à disparaître, qui aidait les infrastructures pour l'handisport, ouais, qui commence à disparaître cette allocation. Donc cet argent qu'on envoie là-bas, parce que voilà.
Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus très rapidement?
Oui. Bah moi, j'avais rebondi un peu dessus en disant, enfin le principe de la solidarité internationale, c'est un principe qui est louable et qui est important, et que vu qu'on a ce budget-là, ça serait bien de débloquer la même somme voire plus pour les athlètes. Je pense que c'est un peu le sujet à chaque fois des sportifs. On nous parle un peu de tout ce qui sort et en nous disant, ça va, vous avez assez. Oui. Et je me faisais la réflexion de me dire, en fait, dans le milieu de la culture, oui, il y a des subventions, mais je crois pas que dans le milieu de la culture, les intermittents disent que tout va bien et que ça suffit. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi dire quand il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a quand même des cagnottes, faut le dire. On a les Jeux à Paris, du coup, on devrait avoir des entreprises à tous les kilomètres qui sponsorisent ou qui accompagnent des athlètes. C'est pas tout à fait le cas. Donc je pense que voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut donner des moyens et il faut en mettre un peu plus.
Alors juste avant, j'ai une dernière petite question, après je m'arrête là. Je voudrais justement à Ayodele que tu nous parles des jeux, tout simplement, parce que voilà, ils vont avoir lieu à Paris, donc nous notre vivant, je crois que c'est la première fois que ça arrive. C'est quoi ton ressenti, parce qu'elle est un peu controversée un peu ces Jeux Olympiques par rapport à la sécurité, à tout ce qui va se passer donc pendant ce mois. toi, en tant qu'artiste, en tant qu'artiste,
oui, en tant qu'athlète. Oui, en tant qu'artiste.
Oui, c'est vraiment le gars artiste. Qui est vraiment à fond dans la musique.
Parce qu'en fait, en tant qu'athlète, qu'est-ce que t'en penses? Après son sprint, elle chante un morceau de Boyz II Men.
Je suis une artiste.
Non, justement, qu'est-ce que tu
penses? Oui, je pense que, en fait, on s'attendait à ce que les jeux changent la place fondamentalement et radicalement du sport en France. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui crée des déceptions. Parce qu'en vrai, pour vraiment transformer la place et la manière dont est perçu le sport, ben, c'est pas juste le fait d'accueillir les JO. Donc là, en fait, on en parle de manière négative, on parle plus des contraintes de sécurité et autres. Mmh. Et parce que, bah, il y a plein de gens, enfin, je sais pas, il y a des gens, on a l'impression, ils sont pas au courant qu'on va avoir les jeux. Donc, du coup,
C'est pas juste une blague, hein. C'est
non, mais, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, vu qu'il y a pas cette ambiance qui prend, vu que les gens se sentent pas plus impliqués, vu que on sait pas qui va faire les jeux dans un rayon de 5 km, ouais. Et ben les gens ils se disent bon bah OK très bien, mais une fois que la fête sera terminée, en fait ça nous aura coûté de l'argent et en fait on aura rien transformé, alors que c'était ça le but, c'était aussi de transformer un peu la vision du sport, de parler d'héritage, parce que pour parler d'héritage, il faut aussi avoir animé des choses pour que les gens ils se saisissent du sujet. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que même là, enfin on parle de cagnotte, on parle de visibilité, on parle de tout ça, bah on est au mois de janvier, quoi. Donc c'est maintenant, si on veut vraiment embarquer tout le monde sur cette fête et aller au-delà de l'événement sportif.
Mais je comprends pourquoi tu confonds avec artiste, parce que c'est les mêmes thèmes qu'on a avec les artistes qui débutent. Faut des fonds, faut financer de ça. Sauf que là, le problème, c'est que c'est des sportifs qui sont censés représenter le pays, dans le pays qui organise.
Voilà.
C'est
alors
ça
justement, qui est problématique, avant qu'on se quitte, j'ai une question à vous poser. Vous allez répondre par oui ou par non, sans rentrer dans les détails. Est-ce que vous pensez que Paris, que la France est prête pour les JO?
Non.
Axel, tu dis non?
Non, malheureusement.
Bah, non. Moi, je pense que oui.
Bah, elle peut pas dire non. Réfléchis.
Non, mais... Elle veut y aller. Ce serait pas encore correct qu'elle dise
elle
non.
Elle peut pas dire non.
Sur ce, nous allons nous quitter. Merci Ayodele, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Ayodele sur Instagram, tiré du bas, IQSAN, IKUESAN.
J'ai pas pu le notifier sur un story en plus. Hein.
Allez, allez lui donner, on va la notifier. Allez lui donner de la force. Allez la suivre si vous souhaitez, soutenir son projet. Allez faire un don. Il y a le lien de la cagnotte sur Instagram. Allez aussi voir toutes ses prises de position. Moi, je trouve ça très très courageux de ta part de vraiment libérer ta parole comme ça et de dire réellement ce que tu penses, et je trouve que très peu de sportifs le font, et on a compris pourquoi, tu nous l'as expliqué un petit peu hors antenne, mais bravo en tout cas à toi, on te souhaite vraiment la réussite, te suivra et on espère pouvoir
la médaille d'or.
Te soutenir, ramène-nous une médaille, en tout cas, même si tu ramènes pas, même si tu
une médaille,
pas,
une médaille.
Non, mais même si elle va pas au JO, en fait, rien que le parcours qu'elle a fait, en fait,
Et si tu vas pas au JO, on initie le sprint poussette. Allez,
ouais, c'est bon. On fera l'épreuve des JO à côté de chez moi. On fera nos JO.
Merci. Ayodele, merci beaucoup d'être venu à l'antenne d'IDFM Radio. Les gars, merci. On se retrouve peut-être ou pas la semaine prochaine sur IDFM Radio. Belle journée à tous. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes.